Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, alors je m'appelle Philippe Claudel. J'ai mis un H entre mon prénom et mon nom pour me dissocier de l'écrivain. Je suis artiste. Sur ce registre-là, j'ai deux pratiques principales qui sont les masques avec des matériaux naturels, principalement végétaux, mais désormais... avec de la cire, donc c'est une extension de ça, et la photographie. C'est l'essentiel de mon activité d'artiste. Parallèlement, j'ai d'autres activités, qui sont des activités en communication, en marketing, en formation à la communication et au marketing, et en design d'intérieur.
Ok.
Ça fait des choses différentes. Toutes les parties communication, marketing, formation, design, etc. Sont des activités qui sont alimentaires prioritairement, mais qui enrichissent malgré tout ma pratique d'artiste. Je pense que si je devais faire seulement de l'art dans mon atelier, ça ferait pas le compte.
Ouais.
Vraiment. J'aime bien tout ce que m'amène à découvrir la communication chez mes clients, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, des technologies, des questions d'environnement, des trucs comme ça, m'intéresse vraiment, réellement. Je le fais, bien sûr, pour gagner des sous, mais aussi parce que ça m'intéresse. Et j'aime bien la circulation entre ces activités. À la fois entre toutes ces activités alimentaires les unes par rapport aux autres,
ouais.
Et en même temps l'enrichissement que ça produit sur ma production, je dirais hors sol, enfin pour laquelle la rentabilité c'est une question complètement différente.
Du coup, ça veut dire que t'es un slasher ?
Ouais, en quelque sorte.
Ouais. Et comment tu t'organises ? Est-ce que t'as des manières de t'organiser, des routines quotidiennes, mensuelles, ou pas du tout ?
Pas du tout.
Tu fais ça au feeling ?
Pas du tout. Non, je fais ça en suivant les nécessités. C'est-à-dire que si pour un client je dois faire un truc particulier qui va durer je sais pas un mois par exemple, je vais me consacrer à ce truc pendant un mois. Puis c'est tout. Et alors bon, après je vais, si ça dure vraiment trop longtemps, etc., je vais à ce moment-là réserver des temps pour la création à l'atelier.
Ouais.
Bien sûr. Comme jusqu'à présent ça n'a jamais duré des années, j'ai toujours réussi à naviguer entre les deux, quoi.
Ouais. Donc ça veut dire que quand t'as l'impératif du travail.
Alimentaire.
Qui ramène de l'argent.
Alimentaire.
Tu casses dans les trous du temps pour ta création personnelle.
Oui. Oui, je mettrai une réserve quand même parce que ça peut arriver que j'ai pas de contraintes de travail alimentaire et que je produise pas pour autant.
Oui.
Ça peut arriver, parce qu'à un moment donné, par exemple, ces derniers mois, j'étais préoccupé par une question de sens par rapport à ce que je faisais sur les masques, etc., qui m'a laissé peu productif sur cette question-là. Par exemple, pour être plus simple, plus rapide, depuis maintenant un peu plus d'un an, j'ai commencé une série de paysages, extérieur bien sûr. C'est une série qui s'appelle les paysages désorientés. et qui a cette particularité de montrer des paysages dans un sens inhabituel, qui fait que on ne sait pas exactement ce qu'on voit. C'est que ça trouble le regard. Mmh. On comprend bien que c'est un paysage, on comprend une partie de ce qu'on voit, mais pas la totalité. Et ça interroge, enfin, ça questionne le regard sur le paysage. Bon. Cette partie-là, je suis très à l'aise avec cette partie-là, parce que c'est complètement en phase avec ce que je pense et ce que j'anticipe des questions environnementales et des effondrements. Donc je suis parfaitement raccord. C'est-à-dire que ça parle de ça, clairement. C'est presque des photographies d'alerte. C'est-à-dire que les paysages, ils deviennent extrêmement sombres, un peu inquiétants, etc. On ne sait pas très bien ce qu'on voit, on ne sait pas si ce qui est dans le ciel, ça va nous tomber sur le nez, mais au sens propre, c'est-à-dire, bon, voilà. Et c'est exactement ce que j'anticipe d'un avenir très très proche. Donc, je suis raccord. Mmh. En revanche, sur la question des masques, je me suis retrouvé, en raison de cette clarté que j'ai sur les photographies, ouais, ça a éclairé ma pratique sur les masques, qui fait que pendant un paquet de mois, ces derniers temps, je me suis demandé quel était le sens de ce que je faisais. Parce que c'est pas du même registre, c'est pas du même ressort. Si tu veux. La photo pour cette série-là, elle est presque conceptuelle, enfin elle est presque intellectuelle d'une certaine façon. Bon, c'est-à-dire que les images sont au service d'une idée ou d'une vision du monde bien claire, ou là d'une prospective bien claire. Les masques, ils appartiennent à aucun projet spécifique. Je ne sais pas pourquoi je les fais. Je sais à quoi ils renvoient, qu'est-ce qu'ils évoquent, les masques, que ce soit avec des végétaux ou avec de la cire, quand tu les vois, clairement, pas seulement quand moi je les vois, mais quand des gens qui s'intéressent à ces trucs-là les voient, ils disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils disent tous, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas de quelle matière ils sont faits, on sait pas à quelle civilisation ils appartiennent, on sait même pas quand ils ont été faits. Ils ont quelque chose qui est de l'ordre des momies, de l'ordre de trucs chamaniques, de l'ordre de rituels, mais on ne sait pas exactement quoi, et on ne sait surtout pas dans quelle région du monde. Donc, c'est cohérent, c'est clair, mais moi, je sais comment ils sont produits, je sais à quoi ils renvoient, mais je ne sais pas pourquoi je les fais.
On est presque dans une dualité, tu sais, la pensée sauvage de
Oui, mais c'est Bistro. Ça, c'est ça.
Et il y a vraiment, tu sais, les photographies, on est vraiment dans quelque chose de construit, de l'ordre de l'ingénieur. Et dans tes masques,
oui, on est plus c'est ça.
Sur du bricolé, quoi.
Oui, enfin, sur quelque chose qui est parfois presque de l'ordre de la transe. C'est-à-dire que je vois comment je l'ai fait, que je l'ai produit. C'est-à-dire que j'ai souvent une idée de départ, je veux faire comme ci, comme ça, avec des trucs qui vont par là ou des trucs qui vont par là, ok. Et la matière va m'amener toute seule à quelque chose qui est pas du tout de cet ordre-là. Et je vais avoir un résultat que j'ai... Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, bien sûr, j'étais parfaitement conscient, etc. Mais j'ai quelque chose qui m'a échappé. Pendant un certain nombre d'heures, à l'arrivée, je suis très content du résultat. C'est cohérent avec le reste. Mais bon. Un exemple tout récent. Je récupère un petit bout de cire d'abeille il y a quelques temps, et puis je joue avec pendant un certain nombre de jours ou de semaines. Chaque fois que je suis à mon bureau et que j'ai un coup de fil, machin, je tripote ce truc-là. J'en fais une espèce de galette très fine de quelques centimètres carrés. Et je m'aperçois que c'est semi-transparent. Et je me dis, waouh, super, en fait, c'est comme de la peau, à nouveau. Comme mes masques de végétaux. Et donc, j'entreprends de trouver de la cire d'abeille brute pour en faire des masques entiers. Bon, je trouve ça, je fais deux ou trois masques, je suis très content du résultat, j'ajoute des pigments minéraux, etc. Je trouve ça super. Et puis je vais voir un apiculteur, un vieil apiculteur dans les montagnes, machin, pour lui demander s'il a de la cire. Il me dit oui, j'en ai, etc. On discute du prix, bon, parce que je ne savais pas combien j'allais pouvoir en prendre, parce que je ne connaissais pas le prix. Puis il me donne un prix, et puis je dis bon, d'accord, voilà. Et au moment où je vais chercher la cire brute, Il me dit bon, écoute, pour le prix, j'ai un truc à te proposer. Je t'ai mis une enveloppe dans les blocs de cire. Regarde, si tu réussis à la prendre par cœur, le texte qui est écrit dessus, je te donne la cire.
Incroyable.
Et moi, je vous l'enveloppe. Alors, c'est un type que je connais depuis longtemps, mais qui est très prosélyte en matière de religion. Bon. Et j'ouvre l'enveloppe et je vois un truc écrit à la main, mais une écriture de magie, tu vois, écrit à la main. Psaume 143, 144, ta-ta-ta, et le Seigneur, blablabla, etc. Je lui dis, bon, bah écoute, et moi, c'est complètement en dehors de ma sphère, hein, clairement. Je lui dis, bah écoute, bah je vais voir. Il me dit, bah, de toute façon, tu la prends, la cire. Dans tous les cas, tu la prends, mais tu me diras. Bon. Et je rentre à l'atelier, et je me dis, je regarde de nouveau ce truc-là, et je me dis, putain, mais je ne peux pas imprimer ça. Mon cerveau est complètement rétif, ne peut pas mémoriser un truc pareil. C'est profondément contradictoire avec tout mon système de pensée, d'incroyance précisément, ma rationalité, mais les informations, c'est non, je ne peux pas. Et je me retrouve coincé avec mes 5 kilos de cire, mes blocs de cire, et je me dis, je suis coincé. Et donc, ça flotte comme ça pendant quelques semaines, puis un jour, je rouvre l'enveloppe, et puis je regarde le truc. Alors, il y avait ce psaume, et puis il y avait à côté une autre petite carte avec une phrase du pape François. Et je me dis, bon, la phrase du pape François, si je la sors du contexte religieux, elle est valide. Ok, c'est pas con du tout ce qu'il dit, c'est plutôt bien vu. Et je me dis, bon, ok, intéressant. Et je prends la phrase, j'enlève un mot, et je grave la phrase dans la cire, à plat, avant d'en faire un masque. Ok, et puis je me dis, ah, mais c'est intéressant, parce qu'on dirait que le masque, il est fait grâce à cette espèce de sentence ou de phrase comme ça, dont on ne sait pas exactement à quel temps elle appartient, finalement. Et je regarde le psaume, et je me dis, pareil, si j'enlève des morceaux, j'enlève les trucs de Seigneur et machin, etc., et je ne garde que ce qui m'intéresse, et je l'intègre au masque comme des trucs qui appartiennent à une croyance très lointaine. Et ça fonctionne. Ça, c'est pas de l'ordre de la démarche pensée en amont et structurée selon un plan de travail, etc. Non. C'est des aménagements entre la parole d'un type, la fourniture d'une matière qui est organique, mon incapacité à mémoriser des textes anciens qui correspondent pas à mes valeurs, mais finalement qui sont introduites dans le truc, etc. Et ça me donne des masques qui sont encore plus inidentifiables dans leur production qu'avant. Parce que là, et en plus, il y a des phrases. Enfin bon, voilà. C'est encore pire. On dirait que c'est des plaques de terre cuite gravées. Tu vois, avec une écriture à peine lisible. Donc voilà, donc c'est le contraire des photos.
Ouais. Je sais que tu fais de la formation, entre autres pour des jeunes artistes, que tu travailles dans le marketing beaucoup et que tu es consultant aussi dans le marketing. Et j'aimerais savoir si tu arrives à appliquer des techniques marketing sur ton propre travail artistique.
Si seulement.
Mais c'est pas ça qu'on veut entendre.
Je me suis souvent dit, en sortant de chez un client ou en sortant d'une formation avec des jeunes, des jeunes gens, des métiers d'art, etc., que j'aurais adoré suivre ma formation. Non pas que je revendique, mais j'assume ça. Enfin, voilà, c'est, et peut-être qu'un jour je serai en phase avec tout ça, mais pour l'instant, non. C'est-à-dire que comment veux-tu que j'enseigne ce que je viens de te décrire à propos des masques en cire? C'est pas modélisable. Et c'est pas marketingisable, tu vois comment on dit ça. En revanche, je connais parfaitement les mécanismes et du marché de l'art et des métiers d'art et du design, etc. Et je peux les expliquer et je peux aider à leur compréhension, donc à leur éventuelle appropriation par les gens. Mais même si moi je connais les mécanismes de tout ça, j'ai beaucoup de peine à me les appliquer. Et alors, parce qu'il me manque des éléments, en fait.
Ok.
Tout simplement. Il manque des pièces.
T'as jamais pensé à bosser avec quelqu'un?
Sur cette question-là?
Ouais.
Non.
Non, ça te...
Non. Je le ferais volontiers. Hein. Si ouais. l'opportunité se présenterait, je le ferais avec grand plaisir.
Ouais.
Bon. Mais par exemple, toutes les histoires de business model et de choses comme ça, je peux pas me l'appliquer à moi-même parce que ça n'est valable que si t'as un interlocuteur pour ça. Si tu veux, c'est comme faire sa psychanalyse tout seul, ça n'a pas de sens.
Mmh.
Même si tu connais parfaitement les mécanismes, etc. Si tu te poses des questions, tu vas donner les réponses qui t'arrangent.
Ouais.
Donc c'est vain. Enfin, c'est une illusion. Le principe de la psychanalyse, c'est justement d'avoir un interlocuteur qui va te poser des questions qui t'arrangent pas, pour faire apparaître des réalités qui t'ont échappé et qui sont fondatrices chez toi. C'est pour ça que très souvent, en sortant des formations ou même des séances de coaching avec mes clients ou des choses comme ça, ou simplement d'accompagnement, je me dis oh, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ça.
Ouais.
Vraiment.
Ce que je me demande, c'est que c'est vrai que pour un artiste, c'est quand même extrêmement compliqué de savoir dans quel marché déjà de l'art tu te poses, mettre tes prix. Bon, voilà. Bon, ça c'est des choses courantes.
Non, c'est très simple. Le marché de l'art, il est construit de façon extrêmement claire. Hein. Il y a deux voies possibles. Soit c'est loisir créatif, soit c'est marché de l'art. Donc, le loisir créatif, tu peux vendre des pièces dans n'importe quelles conditions, etc., jusqu'à 5000 euros, on va dire, globalement. Le marché de l'art, c'est autre chose. Le marché de l'art, c'est structuré en strates économiques, c'est-à-dire que on va passer de 5000 à 15000 euros. Après, on va passer d'une tranche de 15 à 50, ensuite de 50 à 150 et au-delà de 150. D'accord. Donc chaque tranche va avoir des attentes, chaque tranche de prix va avoir des attentes spécifiques. C'est-à-dire que jusqu'à 5000 euros, n'importe qui achète une œuvre à jusqu'à ce prix-là. C'est-à-dire que personne ne va aller vérifier si tu remplis bien les cases du marché de l'art.
Oui.
En revanche, au-delà de 5000 euros, les acheteurs vont commencer à se demander si tu es sur Art Price, si tu as fait des résidences, si tu es soutenu par tel ou tel critique, si tu as un CV qui correspond au marché, etc. Et voilà, si tu as un univers de référence, etc. Si tout ça est cohérent. Si c'est cohérent, à ce moment-là, ils vont être d'accord pour acheter. Et pour chaque tranche, c'est la même chose. Après, tu as l'accès aux commandes publiques, etc. Enfin, tout ça. Bon. Si t'es pas à certains prix, si tu n'es pas dans les collections publiques, les collectionneurs privés ne t'achèteront pas.
Ouais.
Bon, etc. Enfin, il y a tout un tas de critères comme ça. Donc, c'est très clair, c'est très structuré.
Non, mais ça, c'est pour un type de marché de l'art, tu vois, par exemple.
C'est pour le marché de l'art tel qu'il se constitue aujourd'hui.
Bah, ouais. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais peut-être que je m'y connais pas assez, mais tu vois, dans le marché de l'art que tu décris, la plupart des artistes ne vivent pas de ce qu'ils font.
Exactement.
C'est pas le marché de l'art, c'est le marché des plasticiens. Enfin, c'est là où.
Oui, parce qu'ils ne sont pas dans le marché de l'art. Donc, il y a des tas de gens dans la première tranche qui est celle des loisirs créatifs.
Ouais.
Qui ne savent pas que le marché de l'art est construit de cette façon-là parce qu'on leur a jamais dit ou parce qu'ils ont jamais voulu l'entendre ou jamais l'accepter. Et qui rament, quelle que soit la qualité de leur travail, hein, qui rament toute leur vie, et que tu retrouves à 70 ou 80 balais dans un salon machin où ils sont toujours exactement au même point qu'ils étaient à 30 balais. Ils n'ont pas fait le chemin pour cocher les cases, en gros. Encore une fois, quelle que soit la qualité de leur travail, hein,
oui, ça, sûr,
c'est complètement indépendant de la. Ils peuvent être absolument formidables, géniaux, etc. Et ils n'ont pas coché les cases, donc ils sont pas sur le marché de l'art. Donc ils sont toujours au même point, ils sont dans les loisirs créatifs. Et donc dans les loisirs créatifs, que font les gens des loisirs créatifs? Que font les passionnés? Ils dépensent de l'argent.
Mmh.
C'est tout.
Ouais. Ils sont pas en train de vendre.
Ils sont en train de dire ah ouais, mais si j'avais ceci, je pourrais faire mieux. Donc ils vont toujours un petit peu plus loin. Moi je vois ça très clairement chez les photographes par exemple. Les photographes, ils ont jamais le matos qui va bien. Donc, chaque fois, ouais, mais si j'avais un moyen format, ok, moyen format, plus 15 000. Moins 15 000, tu vois.
Oui.
Plus tel optique, plus tel éclairage, plus tel machin, et si j'avais un studio ici, 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 et au final, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils sont pas sur le marché de l'art. Parce que ils ont juste oublié, la plupart du temps, que le marché de la photo, c'est un marché différent de celui de l'art. C'est encore autre chose. Donc, enfin, bref, etc. Donc, à chaque fois, ils sont dans une espèce de truc intermédiaire.
T'as des livres ou des choses à conseiller pour comprendre le marché de l'art ?
La plupart du temps, c'est une parole qui est assez peu publique, ça. C'est-à-dire de décrire les choses comme ça. C'est assez peu dit, ce qui fait que les trois quarts sont dans l'illusion totale. Une anecdote qu'on m'a racontée il y a pas très longtemps, à propos de César, le sculpteur, qui un jour, lors d'un vernissage, de l'expo qui lui était consacrée, était sur le balcon du truc et dit à son interlocuteur, tu vois Coco, cette pièce-là, je l'ai faite il y a 30 ans. Personne n'en voulait. Là, je viens de la vendre, je sais plus le prix,
ouais.
$50 000. Bon. Pourquoi ? Parce que maintenant, je suis César. Et César, dans son atelier, recevait des coups de fil, c'est la même personne qui raconte cette anecdote-là, recevait un coup de fil de quelqu'un de chez Boeing, qui demandait si César était d'accord pour compresser un Boeing. Donc, la question, elle est plus du tout du prix.
Oui, bien sûr.
Ni des moyens, ni... On demande, est-ce que César veut bien compresser un Boeing ? C'est pas, est-ce que César veut bien compresser un Boeing pour 200 000 euros, ouais. 200 000 dollars ? Non, c'est, est-ce que c'est le prix... On est au-delà de 150 000 euros, c'est-à-dire qu'on est en millions de dollars. Et c'est plus le problème. Mais on ne demandera pas ça à quelqu'un qui n'est pas à César. Donc il faut commencer par établir le César pour avoir le pass qui va te donner accès à des commandes comme ça. Où ouais. L'argent n'est plus le problème. Donc la construction de César lui a pris un certain nombre d'années. Et tous les grands artistes aujourd'hui, grands au sens en termes de notoriété au moins, fonctionnent sur ce registre-là, savent ça, ont compris ça. Donc soit ils ont été informés de cette réalité-là très tôt, soit ils ont été en contact avec les bonnes personnes au bon moment, ils ont changé de catégorie. Les artistes qui ne sont pas de cette catégorie-là pensent qu'ils sont dans la même catégorie. Mais en fait, non. Mais ils le savent pas. Les règles sont pas du tout explicites. Donc à 80 balais, ils se retrouvent dans la même misère.
Et incompréhension.
Et incompréhension. Et donc, ils deviennent aigris. 9 fois sur 10. Parce que ils ont pas compris la règle du jeu. On leur a pas dit, ils l'ont pas vu, ils ont pas été en contact avec la règle du jeu. Donc, ils croient que c'est comme ils croient. Et donc, d'année en année, pourtant, ils ont une liste d'expos collectives, personnelles, super longue. Et puis, ça n'a pas décollé. Donc, qui achète leurs œuvres ? Des proches, des potes, la famille, etc. Puisque ça dépasse rarement quelques milliers d'euros. Ah, pour 3000 euros, tu veux pas essayer de savoir si il était vendu, il est dans telle collection, etc. On s'en fout. Pas grave, c'est pas impliquant. Mais quand tu dois acheter un tableau ou une sculpture à 25 000 euros, même des gens qui ont les budgets pour faire ça commencent à se renseigner.
Oui, bien sûr.
Inévitablement. Parce que là, il faut un investissement.
Alors, tu formes des jeunes artistes ou des jeunes artisans d'art.
Oui.
Quels sont tes premiers conseils pour commencer à appréhender le marketing pour un artiste ou un artisan ? Ce qui c'est d'ailleurs peut-être pas la même chose pour l'un et pour l'autre.
C'est pas la même chose, hein. Pas du tout. Parce que encore une fois, pour les artistes, on vise le marché de l'art. Pour les artisans d'art, on vise des publics spécifiques. Pour des productions spécifiques.
Ouais.
Donc la première chose qu'on a besoin de savoir, c'est à qui s'adresse-t-il ?
Et pour un artiste ?
Et pour un artiste, c'est qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut être sur le marché de l'art ou il veut faire du loisir créatif ?
Il veut gagner de l'argent ou en dépenser ?
En gros. Est-ce qu'il veut en dépenser toute sa vie pour une chimère, une illusion, ou bien est-ce qu'il veut entrer sur le marché de l'art Et donc là, il y a des règles spécifiques. Je dis pas qu'elles sont bien ou qu'elles sont pas bonnes.
Oui.
C'est pas la question, c'est oui, pas le sujet. Ça. C'est juste qu'elles sont. Et que si tu les suis pas, bah, tu n'arrives pas là où tu veux aller. Par exemple, un truc très simple. Mais moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, hein, finalement. Mais un jour, il y a un type qui connaît très très bien tout ça, qui regarde mon site et qui me dit, mais le texte qui accompagne tes œuvres là, qu'est-ce qu'il a écrit? Il est très bien écrit, hein, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Ben, c'est moi. Il me dit zéro. Ça vaut rien. Il me dit, ton texte, il doit être signé par quelqu'un qui a une signature, qui a une notoriété quelconque. Si c'est pas un critique d'art, c'est un universitaire. Si c'est pas un universitaire, c'est je sais pas, quelqu'un qui a une autorité d'une façon ou d'une autre dans ce milieu-là.
Ouais.
Qui te donne une légitimité parce que c'est un tiers de référence.
Mmh. Ouais, donc, quasiment. Moi, il y a un truc quand même que j'ai retenu de ces podcasts que j'ai pu faire, de ces épisodes. Et qui rejoint vraiment ce que tu es en train de dire là, c'est que finalement, être artiste, c'est vraiment construire son collectif, dans le sens où, donc oui, tu peux physiquement monter un collectif avec d'autres artistes, et voilà. Mais il y a vraiment ce rapport à la presse, aux critiques, galeristes ou pas galeristes, plateforme en ligne ou pas institution ou pas institution. Mais en tout cas, comment tu crées ton petit collectif pour monter quoi. Et ça c'est, tu vois, on commence par quoi?
Il n'y a pas de début, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites dans l'ordre que tu veux. Tu dois avoir un univers de référence, tu dois avoir une œuvre iconique, tu dois avoir des textes qui sont écrits par des gens qui comptent. Si tu as une photo de toi sur le site, elle doit être faite par un photographe dont l'existence est réelle. Si tu t'es fait un selfie, zéro, quoi. Même si tu fais ça par un pote qui est super, si la photo elle est pas signée, elle vaut rien du tout, elle existe pas. Et puis en plus, dans la photo, on doit comprendre dans quel univers tu te déplaces. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu dois avoir fait des résidences qui comptent. Parce que faire des résidences à 300 balles où tu passes 15 jours, mais qui ne comptent pas sur le marché de l'art, c'est comme si tu peux en faire toute ta vie. T'avanceras pas.
En même temps, ces résidences-là, tu peux ne les avoir que si tu as un diplôme d'école d'art.
Pas forcément. Mais en tout cas, tu ne peux y avoir accès que si on t'aide à y avoir accès.
Mm.
Je parle pas forcément de la Villa Médicis ou de ce genre de résidence. Ouais. Hein. Il y en a plein d'autres, mais il y en a quoi, une dizaine en France qui comptent.
Ouais.
Parce que ces résidences-là ont la légitimité qu'elles se sont construites, qui fait que une fois que t'es en résidence-là, t'es acheté par le FRAC, t'es montré dans le statut des commandes publiques, etc. Et ça enclenche la mécanique, entre autres. Donc les résidences, les commandes publiques, les commandes dans l'espace public. Encore une fois, quelle que soit la qualité de tes œuvres, je veux dire, si tu peux construire une œuvre, si tu peux installer une œuvre dans un espace public, c'est que tu es donc un personnage public, donc tu existes. Donc ta légitimité est avérée. Après, tu as des publications, je sais pas, tel ouvrage, édité par un machin. Après, c'est évidemment, c'est telle galerie, ou telle autre, etc. Et voilà, et après ça s'enclenche tout seul.
Mmh. Ouais. Moi, j'ai peut-être un peu du mal avec cette vision-là.
C'est ce que tu es en train de faire. Hein. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Le parcours que tu fais avec les podcasts, en étant en relation avec des commissaires d'expo, des artistes, des gens qui écrivent, etc. C'est exactement ça. Mmh. Simplement, tu utilises des outils qui sont ceux d'aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est exactement le même principe que ce que je décris.
Mmh.
Là, c'est un principe appliqué, mais c'est ça.
Faut faire comme moi.
Oui. Oui. Et la question, elle est souvent de l'accès à l'information. Par exemple, moi, j'ai une sorte de regret, c'est que j'aurais aimé qu'on m'explique ça il y a quelques dizaines d'années en arrière.
Mmh.
Parce que si on m'avait expliqué ça clairement, tout d'entrée de jeu, mais j'aurais pas perdu plein de temps.
Ouais, bien sûr.
J'aurais choisi peut-être pas ça, ou peut-être ça, mais en connaissance de cause, et pas avec une illusion et un auto-enfumage colossal.
C'est-à-dire le fait d'imaginer que c'est juste la qualité du travail qui fait un artiste.
Oui, voilà. Ça, c'est complètement faux.
Oui.
C'est pas le sujet. Encore une fois, tout ça, c'est la qualité de travail égale. C'est pas le problème. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, même assez vite, si tu coches bien toutes les cases qui vont dans le bon sens, ce que tu fais est forcément très bien.
Oui, parce que le référentiel, parce que tu fais partie du référentiel.
Mais bien sûr, donc c'est bien. Si t'as des commandes qui sont dans l'espace public, si tu y a tel ou tel auteur qui a écrit sur toi, c'est que c'est bien. C'est le principe de vue à la télé, hein, en gros.
Ouais.
Bah bon, toutes choses égales par ailleurs. Mais c'est ça.
Ouais. Alors tout à l'heure, tu disais juste, j'aurais à revenir là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais et tu disais qu'un artiste devait avoir une œuvre majeure, c'est ça ?
Doit avoir un référentiel et une œuvre iconique.
Une œuvre iconique, exactement. C'est là-dessus que je voulais te reprendre. Qu'est-ce que tu entends par ces deux...
C'est-à-dire quelque chose que tu vas voir partout, qui va devenir sa signature.
Donc ça, ce serait l'œuvre iconique.
Oui. Par exemple, le pouce de César, ou par exemple le bleu de d'Yves Klein, ou tout un tas dans l'histoire. Je sais pas le personnage en ballon gonflable de Jeff Koons, ou le Mickey de Jeff Koons, le requin de Damien Hirst, etc.
Une œuvre Instagrammable, quoi.
Iconique, que tu vas trouver partout, oui. Sous toutes ses formes, qui va devenir. Et on saura que ça, c'est un tel. Forcément un tel. Ça peut pas être quelqu'un d'autre.
Et le référentiel, qu'est-ce que tu entends par là?
C'est-à-dire que tout ce qui est produit doit être clairement identifiable comme faisant partie de l'univers de référence de l'artiste. C'est que ça part pas dans tous les sens, quoi.
Faut qu'un artiste soit cohérent, quoi.
Oui. Ça veut pas dire qu'il peut pas changer de registre à un moment donné, mais même quand il change de registre, il y a quelque chose, il y a une cohérence qui apparaît dans son travail.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'il fait toujours la même chose, hein, c'est pas un industriel, mais il y a une cohérence.
Je te remercie pour tes précieux conseils. Où est-ce qu'on te voit, est-ce qu'on te voit quelque part en 2020? Dans une casquette ou une autre?
Oui. On me voit, alors c'est une autre casquette, on me voit en tant qu'artiste et commissaire de l'exposition, du projet organique qui est adossé aux promenades photographiques, à la fois à Vendôme dans l'été 2020, et puis ensuite à Paris, à la Galerie 12 dans le Marais, et puis enfin à Berlin, à la Galerie Collection Regard. C'est les mêmes images, les mêmes artistes qui vont faire ce parcours-là, dans un projet qui dure 5 ans, et qui s'appelle Organique.
Ok.
C'est un projet à la fois artistique et caritatif.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen d'accéder aux informations de cet événement ?
Alors, dans quelques mois, oui. Pour l'instant, c'est en chantier et c'est pas ouvert puisque les premières le vernissage du projet c'est prévu en juin. La première partie dure tout l'été et les expos dans les galeries qui vont suivre le projet démarrent en octobre 2020.
Okay. Oui, donc
octobre 2020 à Paris, novembre 2020 à Berlin, et ensuite ça va s'enclencher comme ça pendant 5 ans.
Okay.
Donc un peu de patience.
Donc on te cherche sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr.
Philippe H. Claudel.
Oui, bien sûr.
Comme ça, si on veut avoir des nouvelles du...
Sur Insta, parfait. Voilà.
Donc c'est quoi tes pages? C'est Philippe H. Claudel?
Oui, c'est Philippe H. Claudel pour une partie du travail. Et Philippe H. Claudel _ outside pour les photos.
Ok. Merci beaucoup, Philippe.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook. Donc pigeon.hirondelle. Le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.